France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et scientifique aussi ont ce livre, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque semaine, l'un d'entre eux, l'une d'entre elles vient nous en parler et aujourd'hui notre invitée, écrivaine, poète, a choisi d'évoquer une œuvre publiée au milieu du 19e siècle et immédiatement censurée, puis redécouverte par les surréalistes et enfin élevée au rang de chef-d'œuvre. Une poésie sans vers mais composée de chants et de maximes, une poésie noire mais prenant le bien, une poésie où l'on rit mais en se demandant bien de quoi et de qui. Mais oui, qu'a-t-on compris à la fin? Que reste-t-il quand on referme les poésies et les chants de Mal d'Aurore du conte de Lautréamont?
J'étais couché dans un lit d'hôpital et les médecins, après m'avoir, comme l'on dit, radiographié, affirmaient que j'étais tuberculeux, ce qui à cette époque était une condamnation à la mort lente. Malgré ma toux et ma pâleur, on me permit de sortir et j'allais me promener boulevard Raspail, me souvenant de mes balades avec mon ami Guillaume Apollinaire qui aimait particulièrement ce quartier de Montparnasse. Je fus naturellement attiré par les vitrines des librairies. Je léchais, comme l'on dit, les rayons où s'entassaient les publications pour personnes pâles, les romans d'aventure, les livres de cuisine, quand tout à coup, mes regards furent attirés par un volume de couleur beige pâle. Et je lus le titre « Les chants de Mal d'Aurore ». Je rentrai à l'hôpital et m'étendis dans mon lit. J'ouvris le volume et malgré les observations et les objurgations des infirmières, je le lus d'un bout à l'autre. Ce fut un éblouissement, un vertige. J'avais découvert un monde. Je n'exagère pas en disant que cette lecture a changé le cours de ma vie et modifié profondément toute mon attitude à l'égard de la littérature. Je prétends en effet que l'œuvre de Lautréamont, Isidore Ducasse de son vrai nom, est une des œuvres qui justifie la littérature.
Bonjour Nathalie Quintane.
Bonjour.
Ça vous fait rire d'ouvrir cette émission avec la voix de Philippe Soupeau qui dit, qui parle de Lautréamont comme ça, qui justifie la littérature.
Qui justifie la littérature.
Vous devez être à la hauteur de cette déclaration, là.
Hein. Je pense que c'est exactement le contraire, alors c'est rigolo.
Alors, bienvenue dans le souffle de la pensée. Vous allez nous expliquer ça. Je vous présente avant que vous rentriez dans le détail. Vous êtes poète, écrivaine. Vous avez écrit une trentaine de livres parus notamment aux éditions POL et aux éditions La Fabrique, des essais, des romans, du théâtre, de l'autofiction, de la poésie. On peut y croiser la figure de Lautréamont, mais vous n'avez pas écrit d'essais sur Lautréamont en tant que tel. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit donc Philippe Soupeau, surréaliste, qui parle de sa découverte de Lautréamont? Alors, en plus, il y a des conditions tout à fait romantiques. La tuberculose.
Il est malade.
Ouais, il n'est pas bien. Il est dans Paris. On est à son chevet. On lui dit non, ne lis pas.
Ouais, le pauvre. Ouais, il a même fait une édition des œuvres de Lautréamont et je crois qu'il s'est fait exclure des surréalistes à cause de ça parce qu'il fallait surtout pas toucher au grand homme. Voilà, c'est une partie de la réception des chants de Mal d'Aurore et des poésies qui est évidemment capitale au XXe siècle. C'est une réception qui explique un petit peu l'espèce de d'emphase de la réception qui pour moi est problématique quand même aujourd'hui. Ça commence avec Léon Blois. Alors Léon Blois considère, voilà, c'est le premier qui fait sortir un petit peu l'œuvre à la fin du 19e siècle, qui considère que c'est écrit plus ou moins par un aliéné, évidemment. Donc hop là, tout de suite, on est très très haut dans la folie. Et puis après, je passe rapidement.
Une petite histoire de la réception de Lautréamont.
J'ai regardé un peu avant de comment ça s'était passé. Valérie Larbaud, en 1914, le fait sortir. Et ensuite, évidemment, on arrive très vite à Breton et Aragon qui tombent dessus en 1917. Et puis là, ça y est, c'est l'inflation surréaliste. Et il faut attendre vraiment... Moi, les ouvrages de Bachelard et de Blanchot sont encore tout à fait lisibles. Je trouve qu'ils sont précis et vraiment intéressants. On y reviendra peut-être. Ça, c'est les années 30-40. Le livre de Blanchot sort à la fin des années 40. Et puis après, il faut attendre tel quel. Alors, Solaire, Splenet, tout ça.
Christeva.
Et Christeva, ouais. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'ils essayent de jeter un peu un seau d'eau froide là-dessus. Mais quand même, ils arrivent quand même à dire que c'est quand même l'écrivain le plus intelligent de tous les temps. Etc. Donc, même quand on veut refroidir le machin, on continue quand même à être absorbé par cette espèce d'intensité qu'il a mis à écrire, mais qui est pas sans mine. C'est miné à l'intérieur même, quoi. Il y a l'histoire du travail, non pas de l'œuvre. De l'autre et amont. L'histoire du travail de l'autre et amont, c'est l'histoire de quelqu'un qui ne cesse de dévaluer la littérature.
Donc c'est bizarre d'en avoir fait l'un des grands chantres de la littérature, d'entendre Soupeau qui dit « c'est ce qui justifie la littérature ». Vous, Nathalie Quintane, comment est-ce que vous présenteriez le conte de l'autre et amont, qu'on appelle l'autre et amont, mais c'est un pseudonyme, en fait, c'est Isidore Ducasse. Ouais, une trajectoire fulgurante. Alors voilà, déjà en disant trajectoire fulgurante, j'ai déjà l'impression d'être dans une critique minée et très clichée de l'œuvre. Vous, comment vous le présenteriez et comment, qu'est-ce que vous diriez de cette œuvre si elle ne justifie pas la littérature selon vous?
Ah, elle l'invalide. En tout cas, la littérature de son temps. Mais alors pour le présenter, si les auditrices, les auditeurs n'ont pas trop idée de qui c'était, ce que je comprends parce que ça reste à la fois étrangement décalé, ça l'était déjà à son époque, hein. Et pourtant, on verra comment, si j'y arrive, plus tant que ça. Donc lui, au début, on savait rien sur lui, après on a su pas grand-chose, et à présent, on sait un peu plus que pas grand-chose, quoi, voilà.
Hein. Et dans le détail, ça donne quoi,
dans
Nathalie
Quintane? Ben, les choses qui sont intéressantes, je pense à garder, à conserver en mémoire, c'est qu'il est en effet né à Montevideo, où son père travaillait au consulat, donc c'est une famille bourgeoise. Qu'il a sans doute assisté, il est parti à 13 ans pour faire ses études en France, il a sans doute assisté à une guerre civile quand il était enfant, sans doute une épidémie de choléra, enfin des choses un peu lourdes comme ça, un peu rudes. Il arrive à 13 ans pour faire ses études à Tarbes et à Pau, d'où ses parents étaient originaires. Visiblement, il lit beaucoup. Il lit beaucoup pendant ses études. C'est un bon élève.
Il a été élevé dans la langue française. En tout cas, il a des parents français qui étaient partis en Uruguay et qui reviennent.
Il a sans doute compris, voire parlé l'espagnol. Mm. Il y a quelques hispanismes comme ça qui se baladent, mais sinon, il a été dans la langue française.
Ça se sent quand on lit, d'ailleurs, parce la profusion du vocabulaire, la précision. Ou alors, je me suis posé la question, je me suis dit, il a une altérité à la langue française qui fait qu'il utilise les mots d'une manière plus précise qu'un français, vous voyez, qui n'est pas abîmé par l'usage quotidien.
Alors, il y a peut-être ça, et il y a aussi que ces sources sont extrêmement variées. À l'évidence, il a lu à peu près, on a l'impression qu'il a lu à peu près toute la littérature légitime de son temps, en particulier les romantiques, Victor Hugo, Lamartine, etc. Mais plus, peut-être Forneret, enfin, on y reviendra, il y a des côtés intéressant de ce côté-là, donc les petits romantiques, comme on dit, les romantiques frénétiques. Mais il a lu aussi les romans feuilletons, il a lu aussi les romans populaires, les romans d'aventure, Walter Scott, et puis il a passé un bac scientifique aussi, donc il est très intéressé par la science, il a lu les encyclopédies du docteur Chenu, donc il en prélève abondamment des passages, il est intéressé par les sciences naturelles, la physique, tout. En fait, on a l'impression qu'il, c'est ça qui est troublant. Il doit avoir une hypermnésie en plus. On a l'impression qu'il a un peu tout absorbé pendant ses années de lycée. Et puis après, il va tout recracher à sa manière, quoi. C'est ça qui est fascinant. Et puis, il passe son bac, c'est deux bacs, littéraire et scientifique. Et il décide de devenir homme de lettres, en fait. Il monte à Paris. Donc, sur les trois, quatre dernières années de sa vie. Et c'est son père qui le finance. Et donc, c'est là qu'il écrit les chants, les poésies, et puis il meurt dans une chambre d'hôtel, on ne sait pas de quoi.
En 1870.
En 70, au moment du début de la guerre franco-prussienne, alors que Paris est, je ne sais pas si c'est le siège déjà, mais que Paris est en guerre, en fait, que la France est en guerre. Donc, voilà.
Et vous, vous l'avez lu quand ?
Alors, moi,
quand est-ce que vous êtes tombée sur lui ?
Je crois que je lui obéis à la lettre, puisque je l'ai lu quand j'avais, je pense, en seconde, donc je devais avoir 15 ans, un truc comme ça, 15-16 ans. Et dans les poésies, il explique bien que ce qu'il écrit, il doit pouvoir être lu par une jeune fille de 14 ans. Donc j'y étais presque.
Vous aviez un an, dépassé d'un an.
Écoutez. Et de fait, la preuve, oui, ça peut tout à fait... Enfin, les chants peuvent tout à fait être lus par...
Mais qu'est-ce qu'on comprend à 15 ans des chants de Malraux ? Alors, je précise, Nathalie Quintane, que vous n'avez pas choisi... une œuvre de Lautréamont, enfin d'Isidore Ducasse, mais deux œuvres, à savoir Les Chants de Maldoror, qui date de 1868-69, et juste après, année de sa mort, Les Poésies 1 et 2. Ce sont deux fascicules parus donc au moment de sa mort en 1870. Alors c'est vrai que tout fonctionne ensemble. On pourrait dire, ce serait bizarre de prendre que Les Chants de Maldoror ou Les Poésies seules sans les faire fonctionner avec Les Chants de Maldoror. Mais quand même, quand on prend ça comme un tout, moi j'ai lu ça pendant mes vacances de Noël, on est un peu perdu. Qu'est-ce qu'on comprend ? On passe d'épisode à un autre, il y a des chants, il y a des strophes, voilà, il y a Maldoror, parfois il dit « je », parfois il dit « Maldoror », donc il décrit Maldoror comme un autre, comme s'il y avait un narrateur omniscient. C'est très troublant.
Bah alors, je pense que j'ai pu me plonger dedans, même à un âge relativement jeune, en y allant, suspension de l'incrédulité, hein, parce qu'il y a une fiction quand même dans Maldoror, même si elle est fortement malmenée. Il y a bien des épisodes particulièrement intenses, où il se passe des choses, des crimes, du sexe. C'est une lecture extrêmement excitante. Enfin bon, il fait lever un truc...
de transgression.
Une potentialité libidinale de la lecture, là, elle est là, quoi. C'est excitant de bout en bout, on peut le dire. Et donc, il y a ça. Donc, on plonge vraiment dedans, dans l'hypnose, qu'il n'arrête pas de relever, hein, c'est-à-dire de citer. Il n'arrête pas de dire c'est de l'hypnose, on s'endort. Enfin, il y a un jeu comme ça sur le fait que la fiction nous hypnotise. Il joue de ça, de cette fiction hypnotisante. Et ça marche. Ça marche même si c'est sans cesse interrompu. Sans cesse interrompu par des commentaires, des interpellations au lecteur, des commentaires de son propre commentaire, de l'autodérision. Donc, si vous voulez, il y a des moments où il y a des espèces de trous dans lesquels vous êtes obligé de tomber et de vous réveiller. Et le souvenir que j'ai de cette lecture à 15 ans, c'est un peu la douche écossaise, quoi. Donc, vous rentrez dans un bain chaud, ah, génial, il se passe des trucs, ou à l'adolescent, il est trop beau, les anges, les machins. Et puis, d'un coup, paf, on vous balance un seau d'eau à la figure en vous disant, hey, toi, lecteur, regarde là ce que je viens d'écrire. Eh ben, je vais aller encore plus loin. Et hop là, vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
C'est ça qui est troublant, c'est cette espèce d'intensité dans la désinvolture. C'est sans cesse désinvolte dans la manière de traiter la littérature et sa propre écriture d'ailleurs. Hein. Il y a vraiment une forme d'autodérision permanente, hein, presque permanente, qu'on attrape ou pas, mais qui est là, qui est bien là. Donc il n'est pas en train seulement de miner la littérature du 19e siècle, de son époque, qu'il a lu et qu'il maîtrise et bon, incroyablement, il est en train de miner son propre texte. Alors, ça veut dire que on peut en conclure que lui-même s'inclut dans la littérature de son temps, comme homme de lettres, littérature, pièce importante de l'histoire de la littérature française. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a toujours un mouvement de j'avance et je recule, j'avance et je recule, je pose, j'attaque et puis en même temps je me désarme.
Mais ça suppose pas une forme de maturité, Nathalie Quintane, c'est-à-dire de comprendre qui mine un texte, c'est déjà comprendre comment fonctionne un texte. Ça veut dire être déjà quand même un petit peu expérimenté avec la lecture, avec différents genres, que ce soit le roman, le théâtre, la poésie. On peut le donner à 15 ans ou plus tard. Si on s'en fout de la littérature, est-ce que ça peut quand même nous parler ?
Je pense qu'il a, je suppose, je ne sais pas, hein, je ne l'ai pas connu physiquement, je suppose qu'il a quand même été à un moment très agacé. Faut voir qu'il arrive à la fin du romantisme quand même, vraiment, vraiment à la
J'adore
fin.
J'adore les petits romantiques. C'est une expression de lui aussi, petit romantique.
On les appelle comme ça, mais il faudrait plutôt dire frénétique. Hein,
ouais,
hein,
mais ça fait pareil.
C'est un jugement un peu qui est pas forcément justifié parce que j'ai relu un peu quelqu'un qui est pas très connu, qui s'appelle Xavier Forneret, qu'on peut trouver sur Gallica très facilement. Et dans un livre qui s'appelle « Sans titre
». Là aussi, on mine la littérature.
Oui, c'est déjà miné, ouais. Qui a été écrit quand même dans les années 30. Donc, il y a en plein moment romantique. Déjà, c'est des formes de maximes absurdes, de vraies fausses vérités, plus ou moins assénées. C'est déjà une préfiguration des poésies. C'est assez étonnant. Et c'est, alors, je ne sais pas s'il a eu accès à Forneret, parce que ce n'était peut-être pas évident à son époque, mais il y a eu un précédent quand même. Et il y a de toute façon dans le romantisme, allemand en particulier, peut-être un peu moins français, un vrai travail d'analyse et de recul sur les textes et les discours dont il a profité, je pense. Mais ce qui l'agace, c'est ce qu'il appelle les grandes têtes molles. C'est Musset l'agace particulièrement, ça faut bien dire, c'est un peu sa tête de l'art favorite. Et puis
en plus, il le trouve en dessous des autres. Donc en fait, c'est tout le paradoxe de Musset, c'est-à-dire que non seulement il le trouve moins bon qu'un Hugo, mais il le trouve quand même assez bon pour pouvoir avoir envie de lui casser la tête, quoi.
C'est ça, ouais. C'est ça. Donc il a toutes les l'emphase là de des moments romantiques du 19e, ben à un moment je pense qu'il en peut plus, qu'il a décidé de leur faire leur fête et il y va pas seulement en s'occupant d'eux, c'est ça qui est remarquable, c'est qu'il y a autre chose qui a dû l'embêter aussi quand même, c'est le roman feuilleton qui avait énormément de succès à son époque
Les
mystères de Paris. Il y a eu une très bonne, je fais une parenthèse, une très bonne émission là-dessus du cours de l'histoire cette semaine.
Xavier Mauduit.
Voilà, c'est ça, qui était vraiment intéressante. D'autant plus qu'à un moment, la personne qui parle souligne, ce que je ne savais pas, que dans les mystères de Paris, Eugène Sue tenait compte du courrier des lecteurs et même incluait le courrier des lecteurs ou les suggestions des lecteurs. Et ça, c'est très, très ducassien, d'inclure les suggestions du lecteur ou de jouer comme ça avec les suggestions, les avis
des lecteurs. C'est marrant, on dit que c'est quelque chose de très contemporain, avec notamment les fans qui vont écrire eux-mêmes les suites ou qui vont s'adresser directement à l'auteur qui est en train d'écrire une saga en cours et il va prendre en compte leurs suggestions, leurs fins alternatives. Finalement, c'est quelque chose qui se faisait déjà au 19e siècle avec, en intégrant des remarques.
Tout à fait.
Mais quand on le fait, Ducasse, comment le fait Lautréamont
Ducasse, voilà. Il était
pas en contact avec ses lecteurs. Il a publié de manière anonyme, il a été très peu lu.
Il fantasme ses lecteurs, il leur parle. Hein, voilà. Oh toi, mais ça commence toujours par vous qui êtes là en train de me lire. et puis après, il nous inflige une petite correction. Et puis après, il nous flatte. Mmh. Enfin, ça passe de... Oui, c'est un rapport presque sadien avec les lecteurs qui vont venir. Et puis, il y a un passage, là, je peux vous lire, parce qu'il est très drôle. Enfin, il ne faut pas oublier que c'est surtout très drôle. Moi, je suis, si vous voulez, toujours un peu perplexe par le fait qu'il faut le prendre au sérieux, bien entendu.
Oui, on en parle sérieusement, là.
C'est un travail... extraordinaire, ça c'est clair. Mais il faut pas oublier que c'est souvent très très drôle, hallucinatoirement drôle. Et par exemple, dans le dernier chant, là, le chant 6, il y a un passage qui est hallucinant, quoi. C'est pourquoi je ferai tous mes efforts pour y parvenir. Si la mort arrête la maigreur fantastique des deux bras longs de mes épaules, employés à l'écrasement lugubre de mon gypse littéraire, je veux au moins que le lecteur en deuil puisse se dire « Il faut lui rendre justice, il m'a beaucoup crétinisé ». Voilà, et vous voyez, et il reprend dans les poésies cette idée qu'il est en train de nous crétiniser. Enfin, il y a une volonté de lucidité, de nous rendre lucides. Et je trouve qu'il y réussit vraiment. On peut pas ne pas à un moment lâcher la lecture et se dire oh, là,
ouais, là, là il va quand là, même plus loin là, que les autres.
Et il y a autre chose. Vous voyez par exemple, c'est l'édition de Steinmetz qui est une bonne édition dans le livre de poche qui date d'il y a une vingtaine d'années que je trouve très bien. Et sur le gypse littéraire, donc en effet, il est en train de parler du livre, de sa fabrication. Le gypse, c'est du plâtre. Et donc la note dit, l'auteur se présente comme fabricant de plâtre, autant dire qu'il travaille à édifier son œuvre. Mais c'est du plâtre.
Ouais. Donc quelle œuvre ?
C'est pas du bronze.
Mmh. Oui, c'est un peu carton pâte justement.
Oui. C'est ça, c'est que je crois qu'il faut faire attention de vraiment bien regarder ce qu'il dit, parce que je pense qu'il avait vraiment conscience de comme vous l'avez dit, hein, des mots qu'il utilisait. Et le gypse, bah c'est pas du bronze. Mmh. Il est vraiment en train de nous dire, moi ce que je vous balance, comme vous venez de le dire, c'est du plâtre. Hmm. Donc, attention, parce que je suis en train de vous crétiniser avec... Vous voyez ?
Ouais. Hmm. Est-ce que c'est quelque chose que vous gardez en tête, Nathalie Quintane, quand vous écrivez ce texte, le fait de se dire, attention, en fait, je reste quand même quelqu'un qui peut balancer du plâtre. Je vais pas me prendre pour quelqu'un qui édifie une œuvre en bronze monumental, voilà. Parce que ça, c'est ce geste-là que vous avez gardé. Est-ce que vous repensez souvent à l'autre et à mon quand vous écrivez? Est-ce que ça a changé votre manière de voir la littérature, c'est-à-dire de la désacraliser, de la prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire des formes, des discours, des mots, mais qui peuvent se retourner, qu'on peut balancer, qu'on peut casser.
Alors, je crois qu'il y a eu, je suppose qu'il y a eu une influence profonde, même si j'ai écrit beaucoup plus tard. En effet, quand on me dit œuvre, j'ai toujours un mouvement de recul. Ça me semble un peu monumental, un peu grand. Travail, j'ai pas trouvé mieux, je sais pas, il y aura d'autres mots, mais œuvre pour Lautréamont, par exemple. Mais non, il a fait son possible pour justement désœuvrer.
Ouais, en plus, je l'ai présenté comme ça. J'ai dit œuvre.
Essayons d'être un peu honnête ou fidèle à ce qu'il a essayé de placer. C'est une grande entreprise et je pense que c'est quand même salvateur de nos jours de dépatrimonialisation de la littérature.
Déjà, le mot est
française,
dur.
Le mot est déjà dur à prononcer. Française et européenne, parce qu'il parle aussi beaucoup des Anglais, hein, Byron, Young, etc. Même des Allemands, je crois qu'il y a Jean-Paul. Donc, il fait ça, de dématrimonialisation aussi, parce qu'il évoque George Sand. Donc, je crois que, vous voyez, substituer la matrimonialisation à la patrimonialisation, je suis pas trop pour, quoi, au sens
en fait, faut pas les monialisations.
Il faut un peu faire attention à ça. La fin des chants de Maldoror, ce qui est quand même un corps qui est projeté sur le Panthéon, hein. Il détruit pas le Panthéon.
Ça ne justifie pas la littérature, comme le disait Soupeau. Au contraire, ça l'invalide. C'est arrêter de prendre la littérature pour des idoles, en fait, pour quelque chose qui dans lequel on doit croire, qu'on doit prendre comme ça. Au contraire, casser tout.
Casser pour offrir d'autres moyens d'analyser les discours aussi. C'est ça qu'il fait quand même. Hein. Il n'arrête pas dans les chants, et encore plus dans les poésies peut-être, d'analyser, de confronter les discours dominant, comme on dit aujourd'hui. Il propose une espèce d'analyseur, hein, surtout dans les poésies. Ça me semble très important, surtout dans un pays comme la France, qui place la littérature encore, mine de rien, tellement haut que n'importe quel sous-secrétaire d'État se retrouve à se faire photographier en col roulé, en train d'écrire son futur essai politique ou son roman, quasi à la plume, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est donc bien qu'il y a encore une espèce de prégnance du modèle de la grande littérature dans la culture française. Et ça aurait dû s'achever un peu ou se prendre différemment à partir de Baudelaire, de Lautréamont, de gens comme ça qui vraiment ont travaillé dans ce sens-là de dévaluation, de déflation. Parce que évidemment, alors c'est comment dire, c'est les débuts des avant-gardes historiques. Vraiment, il place tous les éléments pour qu'on arrive à Dada, au surréalisme, au futurisme, à toutes les avant-gardes historiques. On en reviendra sur le collage et tout ça. Mais la mémoire qu'on en a, même si c'est peu transmis aujourd'hui, ces avant-gardes-là, c'est la déflagration, c'est le coup de pistolet au milieu d'un concert, etc. Je crois plus que de déflagration, il faut vraiment associer la déflagration à une déflation généralisée. Dada a voulu ça, vraiment. Ce sabotage, c'était pas un sabotage simplement pour, je sais pas, balancer des feux d'artifice partout.
On la provoque.
C'était la provoque. C'était par la provocation dégonfler tout ça, quoi. Dégonfler ce qui avait amené à la guerre déjà. Parce que pour que les gens partent à la guerre, faut faire monter la tension. Vous voyez ce que je veux dire?
Et pour ça, la littérature et les récits.
Ah, eh ben, c'est idéal. Bien sûr que si vous balancez des récits et des éléments de langage, comme on dit, pour faire monter la sauce chez les citoyens, c'est comme ça que ça commence. Et c'est ce qu'on est en train de voir dans les différentes chaînes d'information. Il faut faire monter la sauce. Hein.
Alors là, c'est pas de la littérature, pour le coup.
C'est malheureusement notre littérature quotidienne, notre pain quotidien. Et le fait de lire et de comprendre ça, ce type de travail-là, ça nous rappelle à l'ordre, au vrai ordre. C'est-à-dire que il faut que ça flatule, il faut pas
désenfler.
Faut flatule et pas que ça explose tout le temps, quoi. Et alors, évidemment, ce qui est paradoxal, c'est que il arrive à faire les deux dans les champs, hein. Et ça explose, et puis ça implose. Oui. Mais c'est tellement poussé à bout que ça devient ridicule. C'est de la parodie. C'est tellement poussé à bout que ça devient ridicule.
Je saisis la plume qui va construire le deuxième chant. Instrument arraché aux ailes de quelques pigargues roux. Mais qu'ont-ils donc mes doigts? Les articulations demeurent paralysées dès que je commence mon travail. Cependant, j'ai besoin d'écrire. C'est impossible. Eh bien, je répète que j'ai besoin d'écrire ma pensée. J'ai le droit, comme un autre, de me soumettre à cette loi naturelle. Mais non. La plume reste inerte. Tenez, voyez à travers les campagnes l'éclair qui brille au loin. L'orage parcourt l'espace. Il pleut. Il pleut toujours. Comme il pleut. La foudre a éclaté. Elle s'est abattue sur ma fenêtre entrouverte et m'a étendue sur le carreau, frappée au front. Pauvre jeune homme, ton visage était déjà assez maquillé par les rides précoces et la difformité de naissance pour ne pas avoir besoin, en outre, de cette longue cicatrice sulfureuse. Je viens de supposer que la blessure est guérie, ce qui n'arrivera pas de sitôt. Pourquoi cet orage? Et pourquoi la paralysie de mes doigts? Est-ce un avertissement d'en haut pour m'empêcher d'écrire et de mieux considérer ce à quoi je m'expose en distillant la bave de ma bouche carrée? Mais cet orage ne m'a pas causé la crainte. Que m'importerait une légion d'orages? Ces agents de la police céleste accomplissent avec zèle leur pénible devoir, si j'en juge sommairement par mon front blessé. Je n'ai pas à remercier le Tout-Puissant de son adresse remarquable. Il a envoyé la foudre de manière à couper précisément mon visage en deux à partir du front, endroit où la blessure a été la plus dangereuse. Qu'un autre le félicite. Mais les orages attaquent quelqu'un de plus fort qu'eux. Ainsi donc, horrible éternel à la figure de vipère, il a fallu que, non content d'avoir placé mon âme entre les frontières de la folie et les pensées de fureur qui tuent d'une manière lente, tu es cru, en outre, convenable à ta majesté, après un mûr examen, de faire sortir de mon front une coupe de sang. Mais enfin, qui te dit quelque chose? Tu sais que je ne t'aime pas, et qu'au contraire, je te hais.
Les chants de Mal d'Aurore, début du deuxième chant lu par Colin Gruel. Montage impeccable avec la pluie, la musique un petit peu inquiétante. On sent en fait là toute l'emphase, Nathalie Quintane, dont vous parliez, mais en même temps tout le ridicule puisqu'il nous parle tout de suite de « je ne peux pas écrire ». Mais il est en train de le faire.
Exactement. Mais bravo pour la pluie, oui, parce que je pense qu'il y a, s'il y a une mise en onde, je ne sais pas si... Bon, ça a été lu, mais je ne sais pas comment a été faite la mise en onde. Il faut y aller. Il faut y aller à fond. Il faut mettre les éclairs, la pluie, hein, parce que c'est aussi...
voilà, ma Colin Gruel qui réalise aussi l'émission et qui a lu, voilà, il a été à fond, là.
Il ne faut pas lésiner. Il faut y aller. C'est aussi un vrai roman feuilleton. Il y a du mélo, il y a des pleurs, il y a de la torture, il y a du sang.
Il y a des enfants qui meurent.
Oui. Il faut vraiment y aller à fond, ouais, comme il est allé à fond. Et puis, donc, en effet, comme vous l'avez dit, il ne peut pas écrire, mais il écrit.
Mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous tartine.
Voilà, il tartine. Et il y a cette parenthèse qui me fait toujours rire, qui est incroyable, où il explique « Je viens de supposer que la blessure est guérie, ce qui n'arrivera pas de si tôt. » Donc, en fait, c'est une autocontestation perpétuelle et il avance et après il efface immédiatement. C'est-à-dire que la première mise à l'épreuve de la littérature, c'est une mise à l'épreuve de la sienne, de sa manière d'écrire. C'est ça qui est remarquable, évidemment, pour quelqu'un d'aussi jeune, quoi. Mais il a, je pense quand même que si on met le nez dans les romans feuilletons, il y a des choses complètement ahurissantes dans certains de ces Pensions du Terrail, Rocambole, etc. C'est pas vraisemblable, en fait, hein. Et, alors il y a un drôle de, ce qui est remarquable, c'est ça, c'est qu'il y a en même temps, à certains moments, une véritable suspension d'incrédulité. Donc on y croit, on est enfoncé, on est hypnotisé.
On accepte.
On accepte, c'est tellement extraordinaire. Et puis il y a aussi les animaux qui jouent un grand rôle, je pense, dans cette acceptation. Hein. Il cite le pigargue-roux au début.
J'ai regardé une photo, du coup, une image, parce que le pigargue-roux, je pense que je suis nulle. En ornithologie. Et vraiment, j'ai regardé parce que. Non, mais il faut le dire, il y a une profusion de créatures animales, surnaturelles, de références, de précision, de vocabulaire. Quand on lit Lautréamont, on ne peut que se rendre à l'évidence de la pauvreté, en tout cas moi de la mienne, de langage quotidien ou même de littérature que je lis, où je me dis ça ne va jamais aussi loin que ça. Et c'est pas de la poésie qui dit un mot juste pour dire un beau mot. C'est très, enfin, il y a une raison en fait.
Bah, je pense qu'il a compulsé beaucoup d'encyclopédies, de sciences naturelles, etc. Et l'une des forces, le fait qu'on soit, puisse être hypnotisé, je pense, passe par les animaux. Il y a sans cesse des animaux qui se métamorphosent. C'est ça qui est fascinant dans le texte et qui fait tenir un peu comme ça la fiction dans les Chants de Maldoror. C'est que tout est en perpétuelle métamorphose. Et tout prend des dimensions moins fantastiques que cosmiques, en fait. Hein, la pluie qui arrive d'un coup. Ou sans transition, c'est toujours sans transition en réalité. Et on est pris dans ces métamorphoses perpétuelles qui sont... Alors là, le livre de Bachelard est quand même assez intéressant. Il dit bien que ce qui est le...
Alors c'est quel livre de Bachelard et qu'est-ce qui...
C'est Lautréamont. Il a écrit ça dans les années 30 et donc c'est du Bachelard. Hein, il s'intéresse beaucoup aux thèmes, aux animaux.
Donc philosophe quand même scientifique, mais qu'on va connaître pour sa poétique des éléments. Ouais. Donc il est prêt... Enfin là, il est... Ah, c'est le lecteur parfait de Lautréamont.
C'est le lecteur parfait. Il met bien en avant que ce qui est prégnant dans les animaux choisis dans les champs, c'est la bec, le bec et la griffe. Hein. Il y a quelque chose qui est de tout le temps de la forme de l'agression dans les champs. Et puis, il y a aussi une... Quand il y a des métamorphoses, ce sont très souvent, la plupart du temps, des métamorphoses aussi qui dégonflent. Hein. Par exemple, le champ 6... l'ange, il y a des anges qui se baladent évidemment un peu partout, hein, puisqu'ils s'attaquent à Dieu, il faut bien le dire, hein, à Dieu et à l'homme, à Dieu et à l'humanité. Il veut en finir avec la littérature française, Dieu et l'humanité. Il faut bien que les choses soient claires.
Mais j'allais vous relancer là-dessus.
Le propos est clair là-dessus. Et sur le champ 6, c'est un ange qui se métamorphose en crabe tourteau d'un coup. Voilà, ça se termine. Ben, l'un des personnages principaux du chant 6, c'est un crabe tourteau. Donc, si vous voulez, Alors, on n'est pas dans la vraisemblance du tout, mais pas du tout dans le réalisme. Et pourtant, ça tient parce que la scène finale, que évidemment je ne vais pas spoiler, est absolument une scène grandiose, quoi. Ça reste une scène ahurissante.
Alors, on ne dira rien.
Hallucinatoire. Non. Faut...
Mais moi, j'aimerais parler d'une scène, c'est dans le chant 2. Strophe 14, le moment où il y a un naufrage d'un bateau et bon, alors c'est complètement anachronique, mais on a tout de suite en tête des images de films catastrophes, du Titanic. On n'est pas du tout à ce moment-là. Maldoror, donc, qui est cet agent du mal, on pourrait le présenter comme ça, Nathalie Quintane, qui en tout cas veut en finir avec Dieu et l'humanité, comme vous l'avez bien dit, regarde les passagers donc se noyer. S'il y en a un qui sort, bah, il est prêt, franchement je le dis comme ça, à le buter de loin. Et puis, scène finale, alors là je spoil rien, on est au milieu du livre, bah, il copule avec un requin.
La femelle du requin.
La femelle du requin. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Alors, j'ai relu deux, trois fois en me disant, mais j'ai loupé un épisode, là. Que s'est-il passé? Et c'est vrai que c'est pour ça que je vous ai posé cette question au début, Nathalie Quintane, avec les chants de Maldoror, c'est qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on lit? C'est-à-dire que cette intrigue de Maldoror, qui est le mal, qui veut en finir avec Dieu, qui du coup a des péripéties sanglantes, au-delà du côté très transgressif et même jouissif de cette transgression, on se dit parfois, mais pourquoi? À quoi bon?
À quoi bon? Je crois qu'on y a un peu répondu depuis le début de l'émission. Hein. Il y a une véritable mise à l'épreuve de la littérature de son époque, voire de son époque.
Mais quand on s'en fiche de la littérature, quand on se dit...
On n'en lit pas.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, quelqu'un, je veux dire, la littérature de l'époque du 19e siècle, quand on n'a pas ça en tête, quand en fait on lit les chants de Maldoror, qu'est-ce que ça percute en termes de discours, ouais, ou en termes de mots, ou en termes de ou même juste en termes de langage ou de plaisir de lecture.
Ben, moi, je pense que quand même, il a suffisamment lu Victor Hugo en particulier, hein, qu'il connaît très bien, hein, suffisamment lu aussi les romans feuilletons pour en avoir attrapé toutes les ficelles. Hein. Alors, il le dit, hein, il parle des ficelles du roman et qu'il va faire un petit roman sur la fin. Et ça marche. Pour moi, ça marche. En tout cas, ça a marché quand j'étais ado. Et alors, aujourd'hui, évidemment, à l'âge que j'ai, je remarque davantage les ficelles. Mais ça reste, si vous voulez, il a une capacité hallucinatoire dans la description de ses scènes. Ça devient mythologique, ça devient vraiment visuellement, enfin on est là, on est pris dans quelque chose, il y arrive, en fait il arrive à faire quelque chose qui est de l'ordre du mélo, d'une forme de mélodrame, et c'est pas totalement désamorcé, c'est ça qui est remarquable, c'est que c'est pas totalement désamorcé par les interpellations au lecteur, par le seau d'eau froide qu'il balance, par cette espèce d'Alphonse Allais qu'on aurait sorti du congélateur. Vous voyez, c'est quelque chose entre... Je crois vraiment que des gens comme... Alors, Jarry l'a lu, ça c'est clair. Jarry l'a lu, il en a sorti une partie de son travail. Donc, on voit bien où ça mène. Ça mène à quelque chose qui est à la fois plus ou moins crypté, mais aussi une grande moquerie. Père Ubu, ça part d'une moquerie de potache, en fait. Hein. C'est une grande pièce, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, du bureau, mais ça part d'un professeur insupportable. Et il est tout à fait possible que les chants et les poésies partent d'un professeur insupportable, hein, puisqu'il est l'un des dédicataires des poésies, c'est le professeur de rhétorique de Ducasse, qui s'appelait Instinct, ça s'invente pas, et à qui il dédicace les chants. Et si vous voulez, là, on ne sait pas. Alors, on sait une chose, c'est qu'apparemment, ce professeur aurait lu une de ses dissertations devant la classe et s'en serait un petit peu moqué en disant que c'était trop emphatique. Mais dans les poésies, bah, si vous voulez, ça peut être une espèce de pique à ce professeur, mais ça peut être aussi, étant donné que les poésies, on n'en a pas beaucoup parlé encore, hein,
sont, on va en écouter un extrait,
officiellement, ouais, un renversement, une contestation des chants, ça peut être aussi, pourquoi pas, un hommage à ce professeur qui lui a dit « attention, arrête de faire des choses emphatiques ». En fait, on ne sait jamais très bien
un
avec
pied de
lui,
nez
quoi.
Ou de dire au contraire « merci », en fait.
C'est ça.
T'avais raison.
Eh bien, je ne sais pas. Moi, je ne trancherai pas là-dessus.
Le génie garantit les facultés du cœur. L'homme n'est pas moins immortel que l'âme. Les grandes pensées viennent de la raison. La fraternité n'est pas un mythe. Les enfants qui naissent ne connaissent rien de la vie, pas même la grandeur. Dans le malheur, les amis augmentent. Vous qui entrez, laissez tout désespoir. Bonté, ton nom est homme. C'est ici que demeure la sagesse des nations. Chaque fois que j'ai lu Shakespeare, il m'a semblé que je déchiquette la cervelle d'un jaguar. J'écrirai mes pensées avec ordre, par un dessin sans confusion. Si elles sont justes, la première venue sera la conséquence des autres. C'est le véritable ordre. Il marque mon objet par le désordre calligraphique. Je ferais trop de déshonneur à mon sujet si je ne le traitais pas avec ordre. Je veux montrer qu'il en est capable. Je n'accepte pas le mal. L'homme est parfait. L'âme ne tombe pas. Le progrès existe. Le bien est irréductible. les antéchrists, les anges accusateurs, les peines éternelles, les religions sont le produit du doute. Dante, Milton, décrivant hypothétiquement les Landes infernales, ont prouvé que c'était des hyènes de première espèce. La preuve est excellente, le résultat est mauvais. Leurs ouvrages ne s'achètent pas.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Cette fois-ci, on ne parle pas de Lautréamont, mais d'Isidore Ducasse, donc qui est Lautréamont, mais il publie sous son vrai nom ses poésies. Là, nous sommes dans Poésie 2. Alors, Poésie 1, Poésie 2, ce sont deux fascicules, Nathalie Quintane. Poésie qui porte très mal son nom, puisque ça ne correspond pas à la poésie, en tout cas telle qu'on se la figure, avec des vers, avec des sonnets, dans sa forme classique. Au contraire, c'est plutôt voilà, des maximes. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est de la poésie en prose, on pourrait la présenter comme ça?
Disons qu'il prévoit, oui, parce qu'il l'acte pas quand même encore, une poésie dite impersonnelle. Hein, il veut en finir, mais c'est dans la continuité des chants, il veut en finir avec la poésie lyrique, en réalité, le lyrisme, le romantisme, etc. Et il utilise d'autres moyens dans les poésies, qui est une espèce de correction au sens, vous savez, quand on vous corrige, hein, quand vous avez fait une mauvaise action.
Hein, oui.
C'est presque ça, cette correction. Vous allez être corrigé. Hein, donc là, il corrige des maximes de moralisme, essentiellement Pascal et Vauvenargues et puis d'autres. Mais l'objectif est un peu le même, hein, c'est-à-dire déromantiser, arriver à ce qu'il appelle une poésie impersonnelle. Alors c'était un peu dans l'air du temps déjà, parce que les jeunes parnassiens, ils visaient déjà, dans les années 70, ils visaient déjà une poésie impersonnelle. Je pense que tout le monde en avait marre du jeu avec un grand J et avec un grand E.
On avait marre des Hugo.
Oui, alors même s'il est très respecté, je pense, du fait de encore jusqu'à la fin, du fait aussi de son soutien aux communards, du fait de ses prises de position politique, je pense qu'il est quand même, c'est difficile quand même de
se moquer de lui et de vouloir le déboulonner.
Voilà, ouais, de vouloir le déboulonner. D'ailleurs, il s'attaque pas tant que ça à Victor Hugo, il le met dans une longue liste de grandes têtes molles, il s'y attaque un peu bien sûr. Mais
quand
bon.
Même, c'est quand même ouais. un sacré geste, surtout au moment, il écrit quand même au moment où Hugo en impose, il a déjà fait son œuvre, on est dans la deuxième moitié du 19e siècle, on connaît son engagement, il a quand même résisté, il a été en exil, bon, même si ça a été mis en scène, même si on pourrait dire un storytelling autour de ça, mais voilà.
Il a écrit à Hugo, hein, on a retrouvé une lettre dans les années 80, je crois, mais Hugo ne lui a pas répondu.
Ah,
alors est-ce que...
Il l'a ghosté.
Je ne sais pas, il l'a ghosté. Bon, il y a peut-être d'autres choses à faire quand même. Mais il est quand même assez pervers, quoi. C'est-à-dire que très souvent, il te fait des listes de grands écrivains, comme ça, hein, comme Lamartine, Hugo, Byron, je ne sais pas qui. Et il dans ces listes-là, il met des sous-fifres, des espèces de d'auteurs commerciaux dont plus personne n'a le souvenir. Et il mélange tout comme ça, le haut et le bas, il déhiérarchise complètement. Il le fait à plusieurs reprises. Il le fait dans les chants, il le fait dans les poésies. Et c'est vraiment calculé, c'est vraiment à dessein, quoi.
On présente vraiment les chants de Maldoror et les poésies comme quelque chose, comme deux textes qui sont complètement différents. Parce qu'effectivement, dans Maldoror, on a vraiment le combat du mal, enfin pas contre le mal, mais le combat du bien par le mal, par Maldoror, alors que là, on a entendu cet extrait, ce début de Poésie 2, où vraiment, en fait, c'est une célébration de l'ordre, il n'y a pas d'imperfection humaine, la raison est le tout, l'homme est un génie. Alors là, on se dit, et on est clairement dans quelque chose de presque de satirique, enfin, mais moi j'ai des fous rires en lisant les poésies, et notamment quand il s'en prend à cette bande de pleurnichards. Au tout début des poésies 1, je le lis parce que ça m'a fait beaucoup rire, donc il y a cette accumulation où effectivement tout est mélangé, le haut et le bas. Il dit « Les remords, les hypocrisies, les perspectives vagues qui vous broient dans leurs engrenages imperceptibles, les crachats sérieux sur les axiomes sacrés, la vermine et ses chatouillements insinuants, les préfaces insensées comme celles de Cromwell, de Mademoiselle de Maupin, donc Georges Sand et de Dumas fils, les caducités, les impuissances, les blasphèmes, les asphyxies, les étouffements, les rages devant ces charniers immondes que je rougis de nommer, il est temps de réagir, enfin, contre ce qui nous choque et nous courbe si souverainement. » Mais j'aime bien, il est temps de réagir, on dirait presque un slogan politique, poétique politique.
Oui, il y a plein de phrases des poésies qui ont été prises comme slogan, hein, en particulier la littérature doit, la poésie doit être faite par tous et non par un. Bon. Mais ce qu'on a senti dans l'extrait que vous avez lu, c'est que en fait, c'est pas si loin que ça du rythme, de la précipitation, de la vitesse d'écriture des chants. Et il y a les moyens des chants qui sont parfois utilisés dans les poésies. La rupture n'est pas si franche. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il pousse encore plus à fond la réécriture par la correction, en fait. Il n'arrête pas de corriger. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Il se met à corriger les moralistes. Mais il faut dire qu'à l'époque, les moralistes étaient assez à la mode. En fait, ce qui s'est passé... j'ai regardé un petit peu au début du 19e, ceux qui étaient avant considérés encore comme des philosophes, Pascal, Montaigne, etc., sont, on va dire, chassés de la philosophie, qui devient une discipline à part entière, et récupérés par la littérature, donc dévalués quand même. En fait, il prend des auteurs qui, à son époque, sont très publiés, donc il les a lus, hein, il y a vraiment un boom best-seller des moralistes et des maximes, des aphorismes à son époque. Mais c'est des gens qui sont déclassés. C'est un genre qui est déjà déclassé à la fin du 19e, en tout cas dans les années 60-70. Et il les prend et il les corrige. Alors il les corrige, ce qui est remarquable, c'est que il les prend un peu dans l'ordre et dans l'ordre de leur publication, par exemple les Pensées de Pascal. Je me demande s'il a eu vraiment le temps, en fait. Il fait allusion à un moment, le temps me presse. Il le dit hein, une ou deux fois dans les poésies. Je me demande s'il a pas fait ça un peu vite aussi, ce qui est une caractéristique de son écriture. Hein.
Ce qui est une manière aussi une caractéristique de rythme, mais aussi une sorte de je m'en foutis, c'est-à-dire je vais les retourner, mais je vais pas véritablement prendre le temps non plus de les lire.
Parce que ça produit, c'est qu'il finit par se contredire. C'est-à-dire qu'il y a une maxime de Pascal ou de Vauvenargues, je ne sais plus lequel des deux. D'ailleurs, placé à égalité, Pascal et Vauvenargues, déjà, faudra en discuter. Et il prend une maxime positive et il met deux négations, ce qui fait que le contraire veut dire exactement la même chose que la maxime d'origine. Donc il dit exactement, en passant par la négation, la même chose que la maxime de Vauvenargues. Ce qui est déjà bizarre. Et puis il finit par dire à un moment, les maximes ne sont pas à corriger. Genre les principes, il faut que ça reste tel quel. Ben, c'est ce que tu viens de faire.
Oui.
T'arrêtes pas de corriger les maximes. Donc il y a des... Vous voyez ce que je veux dire ? Et sur la fin, il à une page près, il dit blanc, et puis après il dit noir. Il dit tout et son contraire. Donc en fait, il y a une... Je crois ça m'a vraiment un peu alerté qu'on puisse prendre au pied de la lettre et sérieusement ce qu'ont fait les surréalistes en particulier en détachant certaines phrases en faisant des slogans. Alors en même temps, le problème avec Ducasse, c'est qu'il faut toujours dire et même si et pourtant et en même temps. Hein, c'est jamais très,
en même temps.
Très clair, quoi. Voilà. Et en même temps, ça se justifie de parce que ça a été efficace de prendre la poésie doit être faite par tous et non par un. Il y a une efficacité de ça et on a beau le remettre dans le paragraphe de laquelle on a extrait la phrase qui tord un peu le sens en fait, hein, ça serait plutôt c'est tous les sens qui devraient être là et pas un seul, enfin bon voilà, une réinterprétation de cette phrase dans son contexte et évidemment quand on en fait un slogan on sort la phrase de son contexte, mais elle a été sortie de son contexte et elle a été efficace.
Hein, la c'est reprise ça qui compte.
Moi, je crois que oui, que c'est la reprise dans un nouveau contexte.
Même si on comprend pas une phrase, même si c'est décontextualisé, l'efficacité fait que ça peut fonctionner.
Ouais. Alors ça, je pense que vraiment cette phrase-là,
que ça justifie la phrase en tant que telle.
Cette phrase-là, elle est devenue valide. En fait, elle est devenue valide. C'est pas une histoire de vrai-faux. Hein.
En fait, oui,
je
mais
pense
c'est ça.
Il balance le vrai-faux dans sa réécriture des maximes plus ou moins philosophiques, hein, et il en fait quelque chose simplement de valide, valable, vérifiable. En fait, c'est peut-être le premier qui dit aussi clairement la poésie, c'est vérifiable.
Comme des mathématiques, comme un théorème. D'ailleurs, voilà. Il en fait l'éloge.
Et bien sûr, il en fait l'éloge. Il est très conscient de ça. Et j'ajouterais que peut-être vous allez me poser la question de son héritage, mais il y a quelques poètes aujourd'hui qui sont dans cet héritage-là.
Alors effectivement, j'allais vous poser la question, mais j'aimerais juste d'abord qu'on écoute une lettre qu'il a écrite à son banquier, que vous nous avez indiqué, Nathalie Kernan. Je vais l'écouter parce que non seulement elle est drôle, mais il ne faut pas arrêter de se rappeler en l'écoutant qu'il écrit à son banquier.
Laissez-moi reprendre d'un peu haut. J'ai fait publier un ouvrage de poésie chez Monsieur Lacroix, mais une fois qu'il fut imprimé, il a refusé de le faire paraître parce que la vie y était peinte sous des couleurs trop amères et qu'il craignait le procureur général. L'édition avait coûté 1200 francs, dont j'avais déjà fourni 400 francs. Mais le tout est tombé à l'eau. Cela me fit ouvrir les yeux. Je me disais que, puisque la poésie du doute, des volumes d'aujourd'hui, il ne restera pas 150 pages, on arrive ainsi à un tel point de désespoir morne et de méchanceté théorique, par conséquent, c'est qu'elle est radicalement fausse. Par cette raison qu'on y discute les principes et qu'il ne faut pas les discuter. C'est plus qu'injuste. Les gémissements poétiques de ce siècle ne sont que des sophismes hideux. Chanter l'ennui, les douleurs, les tristesses, les mélancolies, la mort, l'ombre, le sombre, etc. C'est ne vouloir à toute force regarder que le puéril revers des choses. Lamartine, Hugo, Musset se sont métamorphosés volontairement en femmelettes. Ce sont les grandes têtes molles de notre époque, toujours pleurnichées. Voilà pourquoi j'ai complètement changé de méthode pour ne chanter exclusivement que l'espoir, l'espérance, le calme, le bonheur, le devoir. Et c'est ainsi que je renoue avec les corneilles et les racines, la chaîne du bon sens et du sang-froid, brusquement interrompu depuis les poseurs Voltaire et Jean-Jacques Rousseau.
Lettre d'Isidore Ducasse à son banquier Joseph d'Arras, c'était le 12 mars 1870, il va mourir quelques mois plus tard, Nathalie Quintane, et cette lettre nous permet non seulement de voir qu'il était question d'argent très très clairement, mais j'ai jamais écrit un message comme ça moi à mon banquier, en parlant des pleurnichards de l'époque, et en parlant surtout en livrant un programme poétique. C'est peut-être là qu'on retrouve quand même quelque chose avec son héritage, c'est-à-dire sa vision décalée qui invalide tout, nous a quand même livré des formules non seulement valides, comme vous l'avez dit, mais qui ne sont pas si décalées que ça avec aujourd'hui.
C'est ça. Je pense qu'il y a, une manière d'analyser les discours, les clichés de son temps, en fait, les discours qui dominaient à son époque. C'est un type de travail, je pense, faudrait lui demander, mais qui a certainement beaucoup marqué quelqu'un comme Christophe Hannah, qui fait la même chose aujourd'hui, alors pas forcément uniquement avec la littérature, les discours littéraires ou la poésie, mais avec les discours que nous tenons, ou qui nous tiennent. C'est un peu les deux d'ailleurs. Il a publié un essai qui s'appelle Sociographie, là, récemment, qui est vraiment intéressant là-dessus. Je pense que c'est son travail. Et vous avez aussi un poète qui s'appelle Antoine Humel, qui a publié Le Club, l'année dernière, je crois, qui est vraiment aussi une analyse des milieux de manière extrêmement précise sur le vocabulaire qu'on tient, les discours qui nous
mais
tiennent.
Mais ce que vous faites aussi, vous, dans 70 fantômes, qui vient de paraître, sur les conversations que vous saisissez au quotidien, c'est-à-dire repérer ce qu'on appelle de manière très écrasante le fascisme, et là qui n'est pas ordinaire, mais qui serait quotidien, en fait. C'est-à-dire que tous les discours qu'on se balance comme ça, qu'on se transmet mine de rien et qui en fait sont chargés et que là, par exemple, quelqu'un comme Ducasse nous rappelle qu'il faut sans cesse le regarder et voir le casser en fait, un peu le taper sur la table pour voir ce qu'il en ressort.
Oui, il y a une vraie force, faut le dire, une vraie force transgressive. On n'a pas parlé d'ailleurs de ce qui est le plus transgressif à son époque et clairement l'homosexualité. Ça, on n'en a pas parlé, mais ça court dans tout le texte et la scène finale est une scène comme ça qui appartient à ça. Et en ce sens, et par tout ce qu'on a raconté depuis le début de l'émission, par les méthodes employées, par les métamorphoses constantes, on peut dire que sans conteste que c'est un texte qui annonce quelque chose de queer, quoi, en fait. Le mot, l'étiquette est un peu est un peu grande ou un peu petite, j'en sais rien pour ce qu'il a fait, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pour ça que c'est un texte, pour moi, les chants et les poésies, c'est un texte pour aujourd'hui. C'est pour ça que je suis venue en parler. Voilà.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et exceptionnellement, une chanson pour clore cet échange sur Lautréamont, les chants de Mal d'Aurore par Léonie Pernet. Et place maintenant à la séquence de fin d'émission après avoir évoqué Nathalie Quintane-Love qui a, allez, transformé votre vie. Je suis pompeuse, je suis dans l'emphase. Place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire mais que vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi?
Ben, la liste serait longue parce que j'ai...
Ah, c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'invités qui nous disent « Non, je ne veux pas dire du mal, j'aime pas ça. » Bon, il ne s'agit pas de dire du mal. Hein.
En fait, donc j'ai pensé plutôt aux poètes parce que ça parle de poésie, tout ça. Et les poètes qui font à peu près le contraire ou pas ce qu'a fait Lautréamont, il y en a un paquet. Il y en a un paquet, il suffit de regarder les listes, je ne sais pas, du printemps des poètes chaque année, vous en avez les deux tiers à mon avis, voire 80%. Hein. Donc voilà, vous avez plein de noms possibles et imaginables. Encore aujourd'hui.
Donc allez voir
parce
le catalogue.
Que le travail de Ducasse reste à faire, pas qu'un peu. Et puis après, bien sûr que les poètes importants, vous savez, pour l'université française et le monde en général, et vous, lecteurs, lectrices, sont des poètes qui forcément dans leurs poèmes montrent la fabrication à l'œuvre. Ont une théorie et en même temps qu'une pratique, ça c'est la poésie. Voilà, la théorie vient avec la pratique, c'est normal, ça se passe comme ça depuis toujours en réalité. C'est pas le 19e qui a inventé ça. Mais reste cette espèce de lourdeur et de transformation en œuvre d'office de la poésie qui plombe, quoi. Alors évidemment, ceux qui ont le plus de thèses aujourd'hui, je sais pas, Yves Bonnefoy par exemple, moi j'aimerais bien que je suis pas universitaire, donc je vais pas commencer à parler de l'université que je connais mal, mais qui a un peu moins de thèses sur Yves Bonnefoy ou sur, je sais pas si Perse en ce moment, il a beaucoup de thèses. Voilà, moi, je l'appelle Perse, je trouve ça mieux. Donc je ne sais pas s'il y a encore autant de thèses sur Perse que sur Yves Bonnefoy, mais là aussi il faudrait peut-être un peu que ça déflationne et qu'on en ait davantage. Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup sur les poésies de Ducasse.
Alors, allez,
peut-être
Ducasse.
Que je me trompe et que je vais avoir 8000 réponses d'universitaires qui vont dire mais si il y a déjà plein de thèses, etc. Mais bon, qu'il y en ait plus, que 1000 thèses fleurissent.
Merci beaucoup Nathalie Quintane. De vous, on peut lire 70 fantômes paru aux éditions La Fabrique, Chemoule, un chat français avec les dessins de Stephen Loy. Loy, aux éditions POL. Et pour lire les œuvres de Lautréamont, Isidore Ducasse, ses poésies et les chants de Mal d'Aurore sont disponibles aux éditions Gallimard. Un grand merci à Manon Delasselle et à Corinne Amard, à Colin Gruel à la réalisation et à la magnifique lecture des textes, et à Grégory Wallon à la prise de son. Toutes les émissions sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.